Laurent Petit, tout le monde n'a pas le bonheur de vous connaître. Je vais faire un rapide résumé peut-être de votre carrière, juste histoire d'introduire à vous, à Laurent Petit, à ce qu'est l'homme Laurent Petit. On vous a connu autour d'une conférence qui parlait de Michel-Ange, qui faisait le parallèle entre Mickey la souris et Michel-Ange, le peintre. On vous a connu également dans le cabaret philosophique, avec Daniel Esponck, Data Hunter, ici présent. Un cabaret qui avait pour mission de sauver l'humanité, on peut dire rapidement. On vous a connu également dans l'hôpital de la dernière chance, qui était une tentative d'hôpital, la dernière chance, peut-être qui devait aider aussi les gens peut-être à passer le pas de l'au-delà. On vous a connu rapidement aussi en tant que chanteur dans un groupe punk chrétien. Et puis aujourd'hui, vous sortez votre premier ouvrage, La ville sur le divan. C'est une première publication, introduction à la psychanalyse urbaine du monde entier. Voilà le projet. Je vais faire pour les gens qui n'ont pas eu le temps de lire le livre ou pas eu l'occasion, je vais faire un rapide survol de l'ouvrage. C'est un ouvrage qui se présente en 9 leçons. Une première leçon qui nous explique les fondements, l'acte fondateur de l'Agence de psychanalyse urbaine en Lettonie. Ensuite, il y a une première ville psychanalysée qui est Vierzon. Vierzon le fiasco, qui visiblement ça se passe pas très bien. Ça commence par une lettre d'excuse au maire de Vierzon. Suite à cette première expérience désastreuse, vous mettez en place 8 commandements qui vont être 8 commandements qui vont vous aider à ouvrir le chemin de la psychanalyse urbaine. Vous psychanalysez ensuite les Côtes d'Armor, 22 Vlaléic. Qui vous permet ensuite de mettre en place une méthodologie à la psychanalyse urbaine. Ensuite, vous arrivez à Tours, que vous psychanalysez avec succès, et vous mettez au point un concept global qui est l'opération spirale. Ensuite, vous nous expliquez l'apparition de Urbain l'Enchanteur, qui est un concepteur-designer qui vous aide à mettre en place le travail de l'agence de psychanalyse urbaine. Ensuite, dans un 7e chapitre, vous nous parlez de la zone de l'union, et là, vous faites un retour sur vous-même, c'est-à-dire qu'en psychanalysant cette zone-là, vous vous retrouvez à vous psychanalyser vous-même quelque part. Ensuite, vous nous envoyez, vous proposez au lecteur, à travers une leçon intitulée « À vous de jouer », de s'emparer des outils de la psychanalyse urbaine, de manière à commencer à essaimer avec cette science-là. Puis enfin, dans une ultime leçon, la leçon numéro 9, intitulée Sagacité, vous nous parlez de Marseille, puis d'Alger, donc comme une ouverture au bassin méditerranéen, puis au monde. Qu'est-ce que la psychanalyse urbaine, en quelques mots, sans déflorer l'ouvrage ?
En fait, c'est un outil qu'on a inventé au fil des expériences qui permet de considérer les villes, mais pas seulement les villes, mais aussi les territoires, comme des êtres humains, des êtres à part entière, avec un passé familial. Des parents géologiques, des parents biologiques, des parents spirituels, ça peut être des parents nourriciers. On met, quand on fait une enquête, on cherche à déterminer cet arbre généalogique du territoire pour ensuite voir comment ce territoire traverse les épreuves de l'histoire, les guerres, les crises économiques, les épidémies, les famines. Ça peut être un événement anodin, comme une descente en deuxième division, qui peut affecter des villes fragiles psychologiquement. Et puis après, ça nous permet de mettre en évidence dans la ville, dans le territoire des PNSU, points névrostratégiques urbains, qu'on traite avec des trucs, des tras, des traitements radicaux urbains, traitements radicaux architecturaux. On imagine aussi des traitements catharsisiques, des fêtes populaires pour essayer de rassembler la population autour d'un événement qui aurait traumatisé la ville. Et puis on imagine parfois des projets de développement économique. Des traitements thérapeutiques, finalement, qu'on propose à la population sous forme de conférences restitutantes, restitutatoires,
restitutives,
restitutationnistes, résumantes, on va dire,
en tout cas.
Pour que la population s'empare de ces propositions, y voit plus clair dans la névrose de la ville, pour ensuite lancer ses projets, peut-être en espérant que la ville parvienne à son épanouissement d'ici 2040-2030. Parce qu'on est sur des échelles urbaines, donc on est sur des traitements qui vont durer 20, 30, 40 ans, suivant la gravité des cas.
Donc votre méthode, c'est détection, puis proposition thérapeutique, traitement des névroses. Vous avez plusieurs outils pour ça. Peut-être qu'on peut, pour rentrer un peu plus dans un cas pratique, comme vous avez fait la... Je ne sais pas si vous souhaitez vous... qu'on parle de la ville de Tours directement, ou est-ce que vous préférez que... qu'on n'en parle pas et que les gens achètent le bouquin plus tôt? Ce qui pourrait être plus motivant, je ne sais pas, c'est une question ouverte.
Bah, c'est sûr que ça a été un cas passionnant pour nous, parce que bon, on attaque Tours grosso modo après avoir subi le désastre de Vierzon. Parce que qu'est-ce qui s'est passé à Vierzon? C'est quand on est arrivé sur place sans être préparé, sans être aussi désiré par la ville. C'est-à-dire qu'on est arrivé là bénévolement, sans maîtriser la méthode, avec un commanditaire qui en plus avait plutôt envie de se moquer de Vierzon plutôt que de la guérir. Donc on est arrivé dans une sorte de souricière où finalement on a fait n'importe quoi. Enfin on est arrivé à rien du tout quelque part. Et c'est... Le livre est une façon pour nous de nous excuser de ce qui s'est passé là-bas. Ensuite on a travaillé sur les Côtes d'Armor où là on s'est retrouvé dans une situation déjà impossible parce qu'on a dû psychaniser urbainement un territoire rural. Nos outils n'étaient pas prêts et en plus on n'était pas sur le bon territoire, donc ça a quand même été aussi un mini désastre, mais on a quand même réussi à sauver la face sur la fin, on le voit dans le livre, hein, finalement on sentir bien. Alors qu'à Tours, là, on a été encadré. On a été encadré par un personnage dont je ne veux pas révéler l'identité, hein, mais qu'on surnomme dans l'ouvrage La Corbusière, qui, elle, nous a tout de suite imposé une méthode, nous a imposé une rigueur, et nous a proposé une enveloppe budgétaire intéressante.
Voilà, cette personne est devenue en quelque sorte la marraine de la NPU. Et en effet, vous le disiez, à Vierzon, vous n'avez pas été désiré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu la démarche de la ville patiente qui fait à la fois de la demande et qui en même temps s'investit financièrement pour pouvoir être guéri. Et ça, c'est important.
Disons qu'on est en psychanalyse, donc l'élément financier est majeur dans le début de la thérapie. Ça marque un engagement et ça nous permet à nous, thérapeute, de travailler dans les meilleures conditions, notamment au niveau de la restauration, qui est quand même le meilleur moyen de goûter aux villes, et ce qui coûte énormément de cher si on veut aller sur des restaurants de gastronomiques.
On vous comprend aisément, c'est sûr que travailler dans des bonnes conditions, c'est important.
Il y a un côté dérive dans notre travail, c'est-à-dire qu'on doit... doit faire des dérives, on s'inspire quand même des situationnistes pour travailler avec des experts, on appelle ça des experts.
Oui, ah oui.
Parce que l'idée, c'est de faire parler la ville au travers de connaisseurs de cette ville, donc des gens qui la pratiquent professionnellement.
Des facilitateurs, en fait.
Des facilitateurs, des gens qui la connaissent en profondeur, donc qui vont aller avec nous chercher dans les couches de l'inconscient. Et puis, après, on part dans des dérives où on rencontre plutôt des gens qui ont des légendes urbaines à nous raconter. On passe énormément de temps dans les cafés.
D'accord. Donc, c'est essentiellement restaurant.
Restaurant et café, c'est nos lieux ressources, principalement, avec les experts.
À Tours, ceci dit, vous avez commencé à aller au commissariat.
Oui.
Mais volontairement, je crois.
Bah, c'est La Corbusière qui nous avait préparé un planning de rendez-vous qui commençait par le commissariat. Mais oui, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, c'était intéressant parce qu'on a senti que le taux de gredinerie était très bas à Tours.
La gredinerie, donc l'art des gredins.
Oui, c'est-à-dire le taux de délinquance, l'insécurité. Nous, on appelle ça la gredinerie. Bon, c'est une manière d'adoucir la tension névrotique qui existe par rapport à l'insécurité un peu partout en France et qui est souvent une sorte de fantasme lié à la pratique abusive de TF1, surtout le journal de midi qui fait beaucoup de dégâts un peu partout en France, on a pu le constater. Donc il y a beaucoup de gens qui pensent être en danger de gredinerie, alors que souvent il n'y a jamais eu qu'un vélo volé dans un garage il y a 10 ans.
Et la porte était
mal fermée, le gars qui a volé le vélo a pris l'autoroute à contresens et ça a été un drame.
Voilà. Je crois qu'à Marseille, d'ailleurs, à propos de gredinerie, vous avez fondé, donc, comme point thérapeutique, disons, comme outil thérapeutique, une école marseillaise de gredins de proximité, l'EMGP.
Oui, parce que là, pour le coup, ça, Marseille, c'est quand même une ville transgressive.
Oui.
On l'a trouvé dans ses gènes même, hein, parce que c'est une ville qui est à l'origine une colonie de fossés. Donc fossé, ça implique, lacaniquement parlant, une sorte de fossé entre Marseille et les villes avoisinantes, donc problème de création de métropole, mais fossé, on n'est pas loin de faussaire. Donc il y a une piste lacanienne d'un danger de transgression avéré là-bas. Et au lieu d'en souffrir, comme on peut l'imaginer en regardant les médias, surtout TF1 le midi, là on proposait aux Marseillais de l'assumer et de former leurs gredins pour qu'on ait une gredinerie de qualité, inspirée principalement d'Arsène Lupin, qui, vous le savez, après avoir cambriolé des maisons, passer l'aspirateur. C'est vers cette qualité de gredinerie que Marseille doit se tourner.
D'accord.
C'est ce qu'on les invite à faire.
Elle s'appelle Marie-France, elle a tout juste 20 ans et elle vient d'épouser un inspecteur des finances, un jeune homme très brillant qui a beaucoup d'espérance. Mais depuis son mariage, chacun dit en la voyant bourrée de complexes, elle a bien changé. Faut la faire psychanalyser chez un docteur pour la débarrasser de ses complexes à tout casser, sinon elle deviendra cinglée. Elle s'ennuie tout le jour dans son bel appartement et pour passer le temps, elle élève dans sa baignoire des têtards. Et le soir, quand son mari est rentré, elle préfère s'enfermer avec ses invertébrés bourrés de complexes. Elle est dérangée. Il n'y a rien à espérer. Il n'y a vraiment qu'à la laisser crever. Tout ça parce qu'elle a épousé un coquelicot déjà fané. Elle s'est inscrite au Racing pour y apprendre à nager. Les têtards, tôt ou tard, ont fini par l'inspirer. Et là-bas, un beau soir, elle a enfin rencontré un sportif, un master, un costaud bien baraqué. Mais bourré de complexes, et tout a changé. Car il est venu vivre chez eux, et le coquelicot soudain s'est senti mieux. Ayant repris toute sa vigueur, il a enlevé le maître nageur. Adieu les complexes, fini les complexes. Elle a changé de sexe, tout est arrangé.
À Tours, très rapidement, vous avez mis en exergue, vous avez détecté un autre type de fossé, ou plutôt une butte qui viendrait séparer Saint-Pierre-des-Corps et Tours, historiquement.
Alors déjà, à Tours, on a été fasciné par sa dimension lacanienne, ne serait-ce que par son nom, parce que tout de suite, on s'est rendu compte que dans Tours, il y a plusieurs tours.
C'est-à-dire ?
Il y a, à mon avis, deux tours principales. Le bâtiment, qui serait un symbole phallique, masculin. Le trou, qui serait un symbole féminin.
Je pensais, en lisant la lecture, je pensais un tour de potier, en fait, quand on disait le tour.
Ah oui, il y a aussi un côté façonnant, bien sûr. Mais nous, on a vite vu, excusez-moi, je suis à la radio, une possibilité pour la ville de s'auto-féconder elle-même. Et c'est ce qui a dû se passer. Ben oui, parce qu'elle a un côté masculin et féminin. Donc c'est une ville, à mon avis, hermaphrodite. Ce qui est assez rare en psychanalyse urbaine. Et ce qui a dû se passer, elle a dû commettre le pire. Et à notre avis... Bon, c'est décrit dans le livre, c'est qu'elle a dû mettre au monde la ville de Saint-Pierre. Et elle n'a pas réussi à l'assumer.
Enfant caché,
Enfant refoulé.
Enfant battu.
Ville bâtarde, j'ai envie de dire. Mais reliée déjà lacaniquement, parlant avec Tours, parce que la mère de Tours, comment elle s'appelle ?
La mère de Tours ?
Oui.
Monsieur ? Non ?
La mère de Saint-Pierre, la mère de Saint-Pierre.
Madame Beaufils.
Madame Beaufils, donc il y a un lien de parenté évident entre les deux villes.
Évidemment.
Excusez-moi, c'est un lapsus. On n'est pas épargné même quand on fait partie du métier. Oui.
Vous parlez beaucoup de Lacan,
oui.
Puisqu'en effet, vous maniez les mots beaucoup, et puis c'est une base de votre recherche.
Oui, oui.
Et c'est également une base de guérison. Je pensais notamment aux ZOB.
Ah, aux ZOB. Prononcez bien. Excusez-moi, on prend un article sur la ZOB.
C'était pas spécifié dans l'ouvrage.
Et c'est effectivement la ZOB, on l'a un peu inventée à Tours, quelque part. ZOB pour zone d'occupation bucolique. L'idée, c'est de créer dans les villes des moyens de refertiliser les villes en créant du lien social par toutes sortes de propositions. Donc la ZOB de Tours, on l'avait placée sur l'autoroute entre Tours et Saint-Pierre-des-Corps pour essayer de réconcilier les deux parties.
Voilà, recréer un peu le canal manquant. Donc, c'était déjà une...
Non.
Je ne sais pas.
Hein. Ah bon, je vais revenir rapidement sur ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe ? À la Révolution, la paroisse de Saint-Pierre devient la clarté républicaine, une ville révolutionnaire. Tours n'était pas très révolutionnaire, donc elle l'a mal vécu. Et après le rétablissement de la principauté, non, du royalisme, la restauration, on va dire, il y a un canal qui s'est creusé entre Tours et Saint-Pierre, le canal du Berry. Sauf que si vous regardez bien la carte que je fais là, si Tours est là et Saint-Pierre ici, vous voyez qu'entre les... Ici, excusez-moi, je suis à la radio. Ici, il y a une zone qui est restée de Saint-Pierre et qui était coupée du reste de la ville. Et sur cette petite zone, il y avait donc l'église et le cimetière de Saint-Pierre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les saints corpusiens, les corpo pétrusiens ont été obligés d'aller à la messe en radeau, à la nage. Donc, ils se sont découragés. Ça a fait le jeu des idées progressistes, socialistes. Et donc,
marxistes.
Communistes. Et pire encore, les corpo pétrusiens ont enterré leurs morts n'importe comment. Dans les fossés, dans des terrains vagues, dans des jardins. Et quand il y a eu les terribles inondations de 1846-56 et 1866, les corps ont remonté. Et Saint-Pierre a été rebaptisé Saint-Pierre-des-Corps. Vous voyez l'ambiance ?
Oui, oui. C'est vrai qu'on a envie de déménager, peut-être.
Et donc, il faut savoir qu'après le canal a été rebouché et remplacé par une décharge. Pendant des générations, c'était une décharge à ciel ouvert. Et ce qu'a fait Jean Royer, c'est qu'il a carrément placé l'autoroute entre les deux villes. C'est carrément une hérésie urbaine. Vous avez ça à Naples et à Marseille.
À Limoges, ça passe un petit peu...
Ça passe aussi au milieu de la ville ? Ouais. Je ne connais pas encore. Et bref...
Il y a des gens qui connaissent Limoges ici.
Et il avait baptisé cette portion d'autoroute le mur de Berlin, pour bien montrer la séparation entre la ville blanche, la ville du Tuffeau et la ville rouge, la ville des cocos. C'est ce qu'il disait. Et pour terminer, juste pour vous montrer la tension névrotique qui a existé, qui existe encore un peu aujourd'hui, ça va mieux depuis qu'on est intervenu quand même, c'est qu'il y a des bâtards d'eau à l'intersection entre la voie ferrée et l'autoroute. Il y a des bâtards d'eau, c'est-à-dire des poutres métalliques qui permettent de protéger la ville de Tours quand il y a des inondations. C'est-à-dire que Saint-Pierre est inondé, mais pas Tours. Et le pire, c'est que la première route qui rentre dans Tours à cet endroit, elle s'appelle la rue Georges Colomb, qui est mécaniquement extrêmement lourd et montre l'espèce de rejet dont souffre la ville de Saint-Pierre. Et il y avait vraiment un travail de réconciliation à faire. C'est ce qu'on a fait avec le point zéro.
Avec le point zéro. Alors j'allais y venir. Le point zéro, donc c'est une trace tangible, visible de votre action sur la ville de Tours, puisque là, c'est donc un point qui se situe sous l'autoroute. On a des photos, absolument. C'est un ouvrage très bien illustré avec quelques photos qui... Je crois que je l'avais... C'est un endroit donc, qui se situe sous l'autoroute, vraiment donc, près des Atlantes. Donc c'est un pylône qui a été...
rebaptisé, qui a été repeint avec des lignes blanches et des lignes rouges, donc en hommage à Tours, hommage à Saint-Pierre-des-Corps. Et il faut savoir, dans les termes de la marine, l'association du rouge et du blanc, ça veut dire qu'on navigue en eau calme.
Voilà, donc un signal d'apaisement.
Voilà.
Tout ça était possible aussi grâce à Urbain l'enchanteur, Charles alias Charlie, qui est le project designer, architecte, qui vous a rejoint à un moment, puisqu'il a fallu vous adjoindre l'aide de quelqu'un qui possédait d'autres outils que vous n'aviez pas.
Oui, il faut savoir qu'au début de la psychanalyse urbaine, je travaillais seul, avec des connaissances en urbanisme proches du zéro absolu. Vraiment, j'ai travaillé avec des jeunes architectes qui m'aidaient à faire des projets en les dessinant sur des nappes de table. Donc je présentais des nappes de table dans les conférences, mais après je les faisais passer dans les rangs. Mais les gens souvent les déchiraient parce qu'ils n'aimaient pas les projets. J'étais obligé de refaire les dessins moi-même.
Ça se voit, d'ailleurs, il y a quelques...
Ça ressemblait rien du tout. Donc ça décrédibilisait notre démarche. Et la Corbusière est intervenue pour nous dire « Bon, bah, il faut que vous travailliez avec des professionnels, arrêtez de faire n'importe quoi, donc essayez de trouver des gens valables. » Et donc j'ai fait appel à Charles Altorfer, qui est donc alsacien de formation, donc qui dit alsacien, dit rigueur, c'est-à-dire il classe ses papiers dans l'ordre, il est capable de ranger sa chambre, enfin bref, c'est un alsacien. Et en plus, il se définissait, quand je l'ai rencontré, comme un architecte potentialiste. C'est-à-dire un architecte avec un fort potentiel qui, à l'époque, n'arrivait pas à s'exprimer depuis 10 ans, 10-15 ans. Et grâce à ce projet, il a pu imaginer des projets qu'il présente sous forme d'images d'ordinateur, parce qu'il est un peu champion de Photoshop. Il arrive à faire des images à toute vitesse. Ça a crédibilisé notre démarche.
Ça rend possible la publication, ça rend possible les restitutions aussi, parce qu'il faut que le patient soit au courant de, et conscience. Comment est-ce que toute une ville entière peut arriver à intégrer votre travail, le faire sien? Ça a été, je pense, un des enjeux vraiment de cette démarche-là. Il y a le livre, il y a le projet de musée, également de la psychanalyse urbaine, qui est l'objet d'une lettre au maire de Vierzon. Moi, je me demandais, il faut être prêt aussi en tant que patient à tout entendre, finalement. C'est-à-dire qu'il y a un risque, il y a un vrai risque en tant que patient, en tant que ville patiente. Il y a un risque de transfert, déjà. Je crois que vous avez été parfois assailli, en tout cas objet de désir, dans cette démarche-là. Puisque souvent, vos thérapies se terminent parfois. Il y a toujours un risque à la fois de combat, de violence. Ça révèle des violences cachées. Ça se termine soit en combat, soit en orgie, finalement. Alors, comment est-ce que vous vous positionnez là-dedans?
C'est-à-dire qu'au début, effectivement, on ne maîtrisait pas bien la restitution même. On voyait que ça crée, à chaque fois qu'on présente nos travaux, ça crée un choc émotionnel. Parce que les gens, souvent, ne connaissent pas bien leur territoire et ne comprennent pas l'influence qu'a le territoire sur leur personnalité. Et ça déclenche quelque chose d'extrêmement singulier qui est de l'ordre de la transe et une sorte de libération des sens qui passe par souvent des tensions érotiques qui se manifestent dans l'audience. Et c'est vrai que c'est un côté agréable, mais les conséquences sont désastreuses parce qu'après, ça met en danger des couples fragiles. Et
Comme en Bretagne,
dans la crêperie, ouais. Vraiment, ça s'est terminé en orgie. Et des gens en ont profité pour découvrir l'homosexualité. Alors que moi, je n'étais pas forcément d'accord. Mais bon, en tant que thérapeute, il fallait que je sois compréhensif. Ça a été un peu douloureux. Mais bon, ça fait. Après, à Tours, on a vécu un peu ça. Parce qu'on a essayé de reconstituer l'ambiance qui régnait jadis dans la mer des Falinces. Qui a donné le tuffo, mais c'est sûr que ça a été une ambiance orgiaque dans la mer des Falinces pendant des millions d'années, et ça doit travailler encore les Tourangeaux. Donc lors des scènes de reconstitution, il y a eu des dérives, et voilà, ça a encore terminé en orgie, mais là, on n'a pas pu assister à la scène parce qu'on était déjà parti à Marseille, mais ça a quand même nué à la crédibilité du projet. Non, on maîtrise mieux, ça va.
Elle s'appelait Françoise, mais on l'appelait Framboise. Une idée de l'adjudant qui en avait très peu pourtant des idées. Elle nous servait à boire dans un bled du Maine-et-Loire. Mais ce n'était pas Madelon, elle avait un autre nom. Et puis d'abord pas question de lui prendre le menton. D'ailleurs elle était d'Antibes. Quelle avanie, avanie et framboise sont les mamelles du destin. Pour sûr qu'elle était d'Antibes, c'est plus près que les Caraïbes, c'est plus près que Caracas, est-ce plus près que Pézenas, je ne sais pas. Et tout en étant française, l'était tout de même antibaise. Et bien qu'elle soit française, et malgré ses yeux de braise, ça ne me mettait pas à l'aise de la savoir antibaise. Moi qui serais plutôt pour qu'elle avanie, avanie et framboise sont les mamelles du destin. Elle avait peu d'avantages pour en avoir davantage. Elle s'en fit rajouter à l'Institut de beauté. Ha ha ha. On peut dans le Maine-et-Loire s'offrir de beaux seins en poire. Y'a un institut d'Angers qui opère sans danger. Des plus jeunes aux plus âgés, on peut presque tout changer. Excepté ce qu'on ne peut pas. Quelle avanie, avanie et framboise sont les mamelles du destin. Davantage, davantage, avantage, davantage, lui dis-je quand elle revint avec ses seins angevins, 2 x 10. Permets donc que je lutine cette poitrine angevine. Mais elle m'a échappé, a pris du champ dans le pré, et je n'ai pas couru après. Je ne voulais pas attraper une angevine de poitrine. Moralité, avanie et mamelle. connaît-le, sont les framboises du destin.
En tout cas, vous donnez de votre personne, et j'avais envie de dire, et l'homme dans tout ça, puisque donc vous êtes Laurent Petit, parfois vous signez Laure en Petit, vous vous faites alchimiste, vous avez ce goût des mots. On parlait de Lacan, mais des mots, M-I-U-X aussi. Vous êtes maître des mots. Alors comment vous abordez un peu ça dans la 7e leçon, je crois, de votre ouvrage, où tout à coup, dans cette zone de l'Union, qui est une zone proche de votre territoire de naissance, c'est-à-dire
Roubaix,
voilà, vous vous retrouvez confronté à un espèce d'effet miroir qui vous tourne boule. J'ai pas d'autres mots. Comment est-ce que ça a résonné en vous ? Parce qu'à force de psychanalyser tout le monde, vous vous êtes retrouvé.
C'est sûr que c'est un travail où on doit être en ouverture, comment on va dire, en ouverture métaphysique. C'est-à-dire que il faut être détendu pour laisser les informations arriver et puis s'offrir quelque part au territoire. On est en empathie. On doit même aimer le territoire. C'est-à-dire on doit l'aimer pour pouvoir le guérir. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'acte amoureux qui est assez, bon, c'est agréable, mais quand même, c'est hyper fatigant au niveau du spirit, de l'esprit qui doit engranger plein d'informations. Quand je me suis retrouvé à Roubaix, c'est le problème, c'est que c'est ma ville d'origine, c'était la ville de naissance de ma mère et de ma grand-mère. Et c'est une ville fort énergisante. Et moi, je me suis retrouvé carrément les deux doigts dans la prise, à me retrouver en face de moi-même. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a réussi à aller jusqu'au bout de l'enquête, mais... Il y a quelque chose de singulier à faire ça. C'est de toute façon, c'est ce qui fait aussi la singularité du travail de Freud, parce que pour commencer la psychanalyse, il fallait bien que quelqu'un se psychanalyse soi-même. Et donc c'est lui qui l'a fait. Et après, il a psychanalysé d'autres personnes. Je pense qu'il a commis l'erreur de psychanalyser sa fille. Je pense que c'est une erreur. Il a fait un peu n'importe quoi sur ce coup-là. Je voudrais pas salir sa mémoire, mais c'était de l'ordre de l'inceste. Je vais pas créer un scandale, mais quand même, c'était n'importe quoi. Et là, moi, j'ai dû faire pareil. J'ai dû commencer, j'ai dû psychanalyser ma propre ville, donc me psychanalyser moi-même.
Vous avez failli vous perdre dans cette entreprise ?
Oui.
Oui.
Oui, oui, c'était dangereux. Parce que je suis carrément allé au fond de mon inconscient. Voilà, ça faisait ce bruit-là, à peu près.
À peu près. Sensiblement.
Non mais bon, ça va, je m'en suis sorti, je le referai plus. J'ai dû psychanalyser récemment tout le Nord-Pas-de-Calais, mais j'habitais à Marseille déjà, donc j'avais
vous
le droit.
Vous aviez pris le soin de vous éloigner.
Oui.
Bien, vous parlez beaucoup d'enchantement dans votre ouvrage. Il y a une très belle phrase que peut-être vous connaissez par cœur. Vous parlez...
C'est tiré des 8 commandements, je pense.
Oui.
En fait, les 8 commandements, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des... Sigmund Freud, encore une fois, a fait des commandements, une sorte de 8 commandements qui ne sont pas forcément connus par tout le monde. C'est un peu un langage de spécialiste. Et ils ont été réinterprétés pour en transformer une approche des 8 commandements sur un être humain, pour les transformer
sur
la ville.
Je vais faire une petite citation, du coup, si vous me permettez. Même si l'objectif de la cure, plus que la prise de conscience des désirs inconscients de la ville patiente, vise à la libération de forces nouvelles qui poussent les habitants au changement et à l'action, on ne peut que redouter la réaction de la population aux prises avec un enchantement sans bornes qui cherchait en vain depuis des siècles son équivalent dans la réalité. C'est vraiment très bien écrit, mais surtout, cette notion d'enchantement, elle est reliée, vous en parlez aussi, vous parlez de l'établissement d'une, peut-être une religion laïque, quelque chose qui serait de l'ordre de la spiritualité, au-delà du religieux, qui meut à la fois les corps, et vous parlez également souvent d'usage de psychotropes qui vous aident à passer et qui aident les gens à passer dans une autre phase de confiance. D'ailleurs, je fais le lapsus moi-même. Proposer des relais H également à plusieurs reprises. Ça fait vraiment partie...
Des hug centers aussi.
Des hug centers.
Des centres du câlin.
Des centres du câlin qui permettent à la population aussi de se réapproprier elle-même et puis de...
Se réapproprier son corps.
Son propre corps.
Et le corps des autres aussi en même temps.
Vous êtes un peu un sorcier ?
Ah, c'est sûr que parfois j'ai dû. On a cherché des solutions en s'inspirant quand même d'éléments qu'on détectait sur les territoires. Donc on note quand même une sorte de blocage des villes et des populations par rapport à l'épanouissement. On a senti beaucoup de ressentiment, de tristesse, d'aigreur dans les territoires. Les gens étaient assez gris. Quelque part dans leur vue du territoire, mais aussi de la modernité. Il y a une sorte de détresse un peu palpable un peu partout, alors que quelque part, à l'intérieur de ces mêmes personnes, on sent une volonté de sortir, une sorte de joie de vivre, une sorte de vie communautaire, collective, qui leur ferait du bien. Les gens sont tous en train de se plaindre, mais en même temps, ils seraient heureux d'avoir des amis. Ils seraient heureux d'avoir faire des fêtes où ils pourraient se lâcher un peu. Et donc,
c'est une proposition de lien aussi. En fait, vous faites plusieurs propositions qui tiennent à la fois de l'urbanisme, du politique, c'est-à-dire de comment vivre dans la ville. Vous résolvez des problèmes actuels comme la surpopulation, comme également l'étalement urbain, les problèmes de la reconversion énergétique. Vous nous amenez à réfléchir et vous proposez des solutions à tout ça, vous proposez une sorte d'autre voie.
C'est-à-dire qu'on prend en considération bien sûr les problèmes locaux qu'on détecte sur place et on les met en perspective avec les problématiques environnementales, c'est-à-dire toutes les menaces environnementales, la fin du pétrole, la fin de l'ère industrielle, la fin d'à peu près tout. Qui fait qu'il n'y aurait plus rien. On parle beaucoup du viol de la terre dans le livre.
Oui.
On utilise une métaphore sur le viol de la terre. Donc une fois que la terre sera épuisée, qu'est-ce qu'on fait ? À part tous se suicider parce qu'il n'y aura plus rien. Ou bien on invente un mode de vie avec rien du tout, avec des bouts de ficelle, ou quelque part, on sera obligé de trouver des ressources intérieures ou des ressources collectives qui ne seront plus dans la consommation matérielle. C'est un peu ce qu'on cherche
à développer.
On cherche un chemin jusque-là. Bon, alors c'est forcément un peu utopiste, mais on essaie d'éviter les dérives yukaidistes quelque part.
Dérives yukaidistes ?
Oui, parce que ça pourrait être une sorte de livre hippie, post-hippie, en disant yukaidi, yukaida. Mais non, on essaie en fait de le dire sérieusement, sans se faire trop d'illusions sur la capacité de l'homme à passer ce stade.
Vous proposez donc notamment dans Tours une vision. Vous parlez de l'opération spirale. Vous dites que en fait le monde d'hier pourrait se représenter sous la forme d'un cercle immuable et que le progrès, le monde d'aujourd'hui, ce serait une flèche. Et donc vous proposez cette alternative de la spirale.
C'est une synthèse. C'est une synthèse parce que c'est l'objet de plein de réflexions. Par exemple, les gens sont tout le temps en train de dire que c'était mieux avant. Ça fait partie du côté gris, c'était mieux avant. Alors c'était mieux avant, alors grosso modo c'était mieux dans les années 70.
Et,
ça s'est arrêté en 83. C'est-à-dire quand Fabius devient Premier ministre, on arrête de rigoler, on passe à la rigueur et c'est parti pour les années 80. Mais bon, si vous intéressez à l'histoire, les gens en 1570, ils disaient que c'était mieux en 1540. Et les Romains en 200, ils disaient que c'était mieux en 150.
C'est un éternel recommencement.
Donc mais en même temps, pourquoi c'était mieux avant, dans les années 70, 60 ? C'est parce que les gens se remettaient de la guerre. Ils ne pouvaient pas dire que c'était mieux avant, parce que c'était la guerre. Mmh. Donc ils disaient, ouais, c'est bien maintenant. Je sais pas, il y a peut-être des anciens parmi vous. Je sais pas s'ils se souviennent. Dans les années 60, on disait que c'était mieux avant. Non, on ne disait pas ça. C'est pas possible.
Moi, je n'étais pas née.
Pourquoi je dis... Ah oui, le cercle. Pourquoi le cercle ? Parce que c'est la logique du cycle des saisons. C'est la logique de la nature, elle tourne en boucle. Elle se développe, mais elle tourne en boucle avec les saisons. C'est un cycle immuable. Et c'est un cycle sur lequel surfaient les anciens jadis. Les religions pré-monothéistes, elles sont sur des cycles. Sauf que maintenant, vous savez que les monothéistes, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont ancré les religions dans l'histoire.
Dans l'histoire, ouais.
Par exemple, on sait que Jésus, il est né en zéro. Mahomet en 622, je pense, ou en 703. Non, il est en 604, bien sûr. Bref, donc il y a un ancrage des religions, des monothéismes dans le temps linéaire. Alors, donc ça marque un début. Mm. Et ça marque, s'il y a un début,
forcément une fin.
Il y a une fin. Donc ça crée une pensée apocalyptique. Okay. Et, ouais.
Et c'est là qu'on est bien embêté.
C'est bien qu'on est bien embêté. Mais en même temps, ça crée une flèche de progrès. Une flèche qui s'accélère à toute vitesse. En ce
le
moment.
Productivisme, la rapidité, la vitesse.
La vitesse, l'intensité, ça a tout,
plus haut,
toute
plus
vitesse.
Loin.
Tandis que le cycle, il invite à l'apaisement, en tournant.
Ou à l'immobilisme.
Ou à l'immobilisme. Et donc l'idée, c'est de combiner les deux phénomènes en créant une spirale. C'est-à-dire, on pourrait retourner en arrière, mais en élargissant le cercle. C'est-à-dire retourner à des savoirs anciens, mais en étant aidé par la technologie.
Des circuits courts.
Ouais. Circuits courts,
mais qui s'élargissent.
Et quand même, la spirale, c'est une manière d'arrêter de tourner en rond Et c'est aussi un procédé qu'utilisent les planètes pour se ranger entre elles. Donc ça doit être
intéressant.
Intéressant.
Et c'est-à-dire que ça marche, sans doute.
C'est-à-dire que ça marche au niveau de l'univers.
On arrive bientôt à la fin de cet entretien. Je voulais parler perspective. Au début du livre, vous nous dites que vous comptez vous rendre à New York, au siège de l'ONU, pour simplement dire que l'agence de psychanalyse urbaine est là et peut-être proposer des solutions ou...
Là, il faut savoir que quand on commence le projet de l'agence, l'ANPU, Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine, on est en fin 2007 et on pensait pouvoir psychanalyser le monde entier en 2012.
En cinq ans, mais
c'était présomptueux, je pense. On s'est aperçu depuis que ça prenait énormément de temps de psychanalyser et la taille du monde entier, on le maîtrisait mal. Donc on est passé d'un plan quinquennal à un plan biquinquennal, avec là l'idée affirmée de présenter nos résultats le 24 décembre 2017 à 23h devant le siège de l'ONU à New York. D'ailleurs, vous venez nombreux, hein, puisqu'un vin chaud vous sera proposé lors de la proclamation des résultats, parce qu'il risque de faire froid à cette époque-là. Donc,
ouais,
a priori, il y a un paquebot qui part de Saint-Nazaire le 1er décembre et un charter d'Athènes. Charter d'Athènes, charte d'Athènes, c'est l'Acadien, hein, pour les architectes, ils comprendront. Mais l'avant-veille, avec la Corbusier qui va apprendre l'aviation.
Qui fera elle-même la traversée.
Il sera notre pilote.
En solo. Est-ce qu'on a déjà le nom du chef cuisinier sur le paquebot
Ah, mais je pense qu'il y a un festival de cuisine en ce moment à Tours qui se débute. Ça s'appelle comment? Rogusto.
Rogusto. Peut-être... J'ai pas eu la chance d'être invité. Vous parlez également, juste pour continuer ces perspectives, ces ouvertures, en psychanalysant Marseille, vous retrouvez assez vite à psychanalyser Alger, et là se trouve un peu le problème de... Du coup, vous êtes français, et comment... Donc, dans la psychanalyse, c'est possible de psychanalyser, disons, plus ou moins son territoire, mais dès que vous allez vouloir vous exporter, est-ce qu'il ne va pas falloir vous auto-psychanalyser encore un coup pour permettre de...
Alors, Alors là, le cas algérien était terriblement douloureux parce que on s'est aperçu des dégâts qu'on avait faits, mais alors à un point, et on nous l'a bien fait sentir. Et je crois que ça a commencé par une séance d'autoflagellation de plusieurs jours en suivant. Après, on a réussi à se c'était terrible parce qu'après, on s'est aperçu que après la guerre d'indépendance, il y avait une guerre civile terrible en Algérie où les gens ne s'en étaient pas encore remis. On a dû enquêter là-dessus. On a lu des bouquins entiers sur des massacres effrayants. Et après, il a fallu présenter ça. Mais on a eu la chance de rencontrer des Algérois, habitants d'Alger. Attention, Algérois, Algérien, il y a le concept roi, rien. Il y a eu un truc bien chargé à ce niveau-là. Ouais. Donc on avait mis en place le concept d'Algérienne pour sortir, puis pour pousser les femmes là-bas, parce que bon, elles sont pas bien considérées. Enfin, elles sont bien considérées, mais du moment qu'elles restent cachées chez elles. Enfin bref, on a essayé de mettre ça sur la table. Mais on a eu la chance quand même de rencontrer des experts là-bas qui avaient un sens de l'humour hors du commun. Parce qu'ils arrivaient à nous raconter 2 heures de massacre dans un fou rire permanent.
Continue.
Et on s'en est inspiré. Et après, c'est sûr que c'était dur émotionnellement. Encore maintenant, moi, je l'ai présenté à la conférence. J'étais vraiment touché, au point de pleurer pendant la conférence.
Vous dites plusieurs fois, d'ailleurs, dans votre ouvrage, que souvent vous vous trouvez à pleurer. Vous avez souvent les yeux en plein larmes.
Ça me touche. Ouais. Ça m'a touché. Et puis, donc là, on est parti sur le Cameroun. C'est encore pire, quasiment. Enfin, parce qu'en plus, leur indépendance a été volée. Donc, on travaille sur la post-colonisation, parce que je pense que c'est un truc à régler pour la psychanalyse du monde entier.
Et les restitutions se font là-bas sur place? Est-ce qu'il peut y avoir comment
en Algérie,
on a profité de ça, nous aussi.
En Algérie, on a fait les restitutions à Marseille, à Lille, à Paris. Et là, on a une tournée qui se dessine. On va aller présenter les résultats à Oran, à Tlemcen et à Alger en février. Et ça, c'est hyper émouvant parce que ce qu'on raconte dans la conférence, ça... Ça touche les Algériens, ils sont touchés. Les pieds noirs quittent la salle systématiquement. Les harkis sont touchés aussi. Les Algériens d'origine sont fort touchés. Et puis, ce qui est fort, c'est qu'ils interviennent souvent dans la conférence pour corriger des choses, rebondir. Ça instaure un dialogue, c'est magnifique. Donc ça, c'est pour l'Algérie. Après, le Cameroun, ça nous intéresse. Après, là, on va à Beyrouth. On va sans doute travailler à Beyrouth. Mais la présence française a été moins forte, moins désastreuse, je veux dire, qu'en Algérie. Et ça pose effectivement, travailler à l'étranger, ça pose la question de la langue. On a un projet qui se dessine à Essen. Essen, c'est en Allemagne, dans la Ruhr. Ouais. Essen, en allemand, ça veut dire manger. C'est une ville qui s'appelle manger. C'est hyper étonnant. Mais on ne peut pas faire la
travail d'analyse lacanienne.
On doit travailler avec des partenaires locaux. Non, même pas des interprètes. Ah non. Non, il faut que les gens travaillent dans leur langue.
Avec vous. Ouais, ouais,
on a un projet en Pologne. C'est pareil, ça va être pareil. On ne va pas pouvoir... On va encadrer un Polonais qui va devoir s'initier à la psychanalyse urbaine et le faire dans sa langue. Sinon, ça ne marchera pas. On pense au Vietnam. Mais même au Vietnam... Les gens parlent plus beaucoup français.
Non.
Notre rêve, finalement, évidemment, c'est Jérusalem, forcément. Mais dans quelle langue on va traiter ça? Avec qui?
Ça va être
pas facile. Il va falloir mettre 2 ou 3 personnes de différentes religions sur la scène, enfin sur la table de conférence, enfin, je sais pas. Mais on va pas le faire en français ou en anglais, ça n'a pas de sens. Parce qu'il y a une pratique de la langue qui est nécessaire pour psychanalyser urbainement parlant.
Jusqu'où vous allez aller?
Jusqu'à ce qui nous intéresse. En France, pour finir la France, parce qu'on a vraiment fait trop de... On est un peu fatigué. Alors, on va travailler sur Drancy. Drancy, c'est l'an prochain. C'est là où a été la gare de triage pour les déportés. Donc, on va devoir régler le problème de la collaboration. Ça va pas être facile. Mais autant vous dire qu'on va...
S'y atteler, j'imagine.
On va s'y atteler, parce qu'il faut. Ça fait partie du travail. On doit travailler sur Caen, Cherbourg, je pense. Beyrouth. On voudrait bien sûr travailler à Vichy. On voudrait psychanalyser Vichy. La Corse. Et Calais, pour travailler sur la question des réfugiés. Et
puis est-ce que vous avez déjà reçu
l'étranger.
J'ai une toute petite parenthèse. Est-ce que vous avez déjà reçu des menaces? Est-ce qu'on a déjà tenté de vous enlever? Par exemple, quelqu'un surgirait dans cette librairie, puis vous enlèverait ou kidnapperait?
En Algérie, on ne faisait pas les malins. On n'était pas fiers. Enfin, on a pris un visa touristique pour pouvoir aller où on voulait. On a été vite repérés. Au bout d'une semaine, on recevait des coups de fil bizarres. Mais ça faisait partie de la paranoïa ambiante. Peut-être qu'on était devenu paranoïa nous-mêmes parce qu'on est en empathie. Là où on y retourne, c'est pas ce qui va se passer. Mais a priori, non, on n'a pas vraiment reçu de menaces. Mais en Algérie, c'était chaud quand même. Je sais pas. Il y avait des messages bizarres. qui nous arrivait sur les portables. On savait pas comment les gens avaient trouvé nos numéros. Enfin bref.
Bon, alors la psychanalyse...
Il y a toujours une petite part de danger dans le boulot, mais c'est quand même pas méchant. Par rapport à Tintin et Milou, c'est tranquille, je veux dire.
Finalement. Merci Laurent.
Parce qu'il fait des enquêtes aussi, Tintin.
C'est vrai. Merci Laurent Petit. Votre ouvrage est donc disponible aux éditions La Contre-Allée. Merci Laurent Petit. Quelle œuvre déjà passée et en perspective. Merci à la boîte à livres de nous avoir accueillis. Un petit mot de Maud Le Floch du Polo.
Oui, je voulais revenir sur le point zéro, donc, qui est situé sous l'autoroute A10 entre Tours et Saint-Pierre-des-Corps, qui est un endroit. L'autoroute constitue un toit urbain. Et donc, c'est vrai qu'on y trouve plein d'usages, des camionneurs qui viennent ici faire une pause. Il y a aussi des pratiques un peu illicites, des petits trafics de cigarettes, des camions qui remontent d'Espagne et qui, hop, vendent des cartouches sous l'autoroute. Il y a des gens qui viennent réparer leur voiture, parce que c'est un toit aussi, faire leur vidange. Donc, on peut avoir des pratiques extérieures. Il y a des gens qui viennent répéter la cornemuse, parce que ça sonne. Des gens qui jouent à la pétanque. Enfin, c'est vrai qu'en faisant ce travail d'enquête, on a repéré plein de pratiques de la ville. Et donc, quand Laurent a identifié ce point zéro comme étant le PNSU, le point névro-stratégique urbain, il a dit, voilà, on va essayer de créer un premier point de réconciliation urbaine et universelle, voilà, et qui a été célébré, donc qui a fait l'objet d'un baptême baptisé en présence de la maire de Saint-Pierre, Marie-France Beaufils, et une adjointe de la ville de Tours, Régine Charvet-Pellot, et ensemble, elles ont baptisé ce point zéro. Et alors, donc, pour la petite anecdote, quand même, je raconte. Donc, Laurent Petit, comme on inaugure un paquebot avec la bouteille de champagne, on lève le voile, point zéro, etc. Le public avait... On avait tous une petite gommette, soit rouge, soit blanche, en fonction qu'on était de Tours ou de Saint-Pierre. Et on devait se faire des accolades rouge-blanc pour, voilà, le point de réconciliation urbaine et universelle. Et l'adjointe de Tours dit « Eh bien, ces couleurs, le blanc, le rouge, espérons qu'à terme, tout cela devienne rose. Cette pile d'autoroute devienne rose. » Et Marie-France Beaufils, elle dit « Non, non, il faut garder le rouge. » Voilà, donc il fait l'objet de nouvelles pratiques. C'est intéressant. Il y a des gens qui se réunissent au point zéro, qui viennent faire des conférences de presse au point zéro. Il y a eu la conférence climat 37 qui a fait sa conférence de presse au point zéro. Il y a des clips vidéo qui sont tournés au point zéro. Il y a même des gens qui pratiquent le géocaching. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est une sorte de jeu de piste urbain qui se joue à la fois en vrai, dans la réalité urbaine et sur Internet. Voilà, donc ce point zéro continue à activer. Et puis, il y a même des projets... d'abolir cette frontière. Donc, il y a des étudiants ingénieurs aménageurs qui travaillent sur le thème de la frontière. Il y a des études qui sont faites sur le territoire pour voir le talus s'ouvrir et laisser passer l'eau en cas d'inondation. Enfin, voilà, le point zéro agit et met au travail le territoire, notre territoire. Donc, merci Laurent.